d'un sujet qui effectivement me tient beaucoup à cœur et qui vous montre un petit peu là aussi au fur et à mesure du temps l'évolution de la chirurgie dans le cancer du mein. Vous savez que l'arme principale aujourd'hui du cancer du mein, même si on a des limites en cas de cancer multimétastatique d'emblée, pour savoir s'il a une légitimité à effectuer une néphrectomie. Actuellement, le cancer du rein reste chirurgical dans beaucoup de situations. Donc, je vais essayer de vous parler de ce point assez nouveau, qui est effectivement la chirurgie robotique. Et vous dire un petit peu quelles sont les nouveautés qu'on peut en attendre, les limites, et passer un petit film pour vous montrer un petit peu ce qu'on est aujourd'hui amené à faire. Il est un fait que le traitement du cancer en général, quelles que soient les disciplines, est de moins en moins radical et de moins en moins invasif. Donc on est passé de l'ère de la néphrectomie élargie, que j'avais ici, radicale néphrectomie et partielle néphrectomie, donc on retire tout R radical, P partiel, la chirurgie ouverte où on faisait des grandes incisions qui faisaient 15, 20, 30, 40 cm en fonction de la conformité des patients. On est passé à la chirurgie laparoscopique ou sémioscopique, globalement c'est la même chose, où cette fois-ci on ne va plus ouvrir le patient largement, où on va introduire les instruments par l'intermédiaire de petites cheminées qu'on appelle des trocars, dans lequel on glisse les instruments. Et puis, on a subi l'évolution technologique dont on va parler tout de suite, qu'on appelle la chirurgie robotique, où le robot n'est pas encore amené à opérer seul les patients, peut-être le sera-t-il, j'en dirai un mot, mais aujourd'hui, où le robot n'est qu'une interface entre le chirurgien et le patient, et on va voir pourquoi est-ce que cette chirurgie a vraiment un intérêt, notamment dans le cancer du rein. Il faut savoir que un certain nombre d'entre nous, et notamment dans l'ancien endroit où je travaillais à l'équerre, on développe beaucoup l'ablation percutanée. Cette fois-ci, on ne va plus retirer la tumeur, mais on va la brûler par voie percutanée, c'est-à-dire qu'on va introduire une petite aiguille ou une électrode, peu importe le type d'électrode, souvent c'est l'électrode en parapluie, on va l'introduire à travers la peau au sein de la tumeur, et on va appliquer un courant, notamment un courant soit qui chauffe, qu'on appelle la radiofréquence, soit qui refroidit, qu'on appelle la cryoablation, pour pouvoir véritablement, on va dire, atomiser la tumeur qui reste en place, mais la tumeur devient complètement atone et les cellules tumorales sont définitivement mortes. C'est un traitement qui aujourd'hui n'est plus expérimental et qui est en voie d'utilisation dans un certain nombre de situations. Et puis il y a maintenant des techniques qui, elles, sont expérimentales, mais on ne va même plus traverser la peau. On va simplement appliquer un courant, notamment d'ultrasons de haute intensité, au contact de la tumeur et à travers la peau, le courant va aller agir pour vraiment, encore une fois, atomiser la tumeur. Donc c'est les traitements qui sont expérimentaux, mais dites-vous bien qu'on est vraiment en train de beaucoup évoluer, et probablement que pour les petites tumeurs, on sera amené dans les années à venir à revoir un peu le modèle chirurgical et à peut-être faire un petit peu plus d'ablation. À savoir que ces techniques ablatives, donc où on va brûler la tumeur, existent également pour les métastases. On peut être amené à griller des métastases à travers la peau pour des métastases pulmonaires, pour des métastases surrénaliennes, des petites métastases hépatiques, etc. Donc là encore, on est amené à être de moins en moins invasif parce qu'on a vraiment conscience quand même que la chirurgie, c'est pas un bon plaisir, même si c'est utile. Alors ici, je vous montre un poulet. Pas pour comparer les patients à un poulet, bien sûr, mais c'est pour comparer les tumeurs à un poulet. Et vous imaginez qu'il y a un verre, il y a un vase, et que la tumeur, symbolisée par ce poulet, est à l'intérieur d'un vase. Donc on a différentes manières pour extraire le poulet, on va plutôt dire le découper, et extraire ce qui nous embête. Il y a la main. Là, c'est la main du chirurgien, c'est ce qu'on a fait pendant des millénaires. Et ce qu'on faisait encore il y a 10 ou 15 ans, et ce qu'on fait encore même pour des grosses tumeurs. On ouvre et on va dépecer le poulet. Et puis il y a des techniques que l'on appelait, donc, ce que je vous ai dit, la chirurgie laparoscopique, ou la chirurgie sémioscopique, cette fois-ci, on va introduire les instruments à l'intérieur du vase et on va découper le poulet. Et si je vous montre ici, c'est cette image ici du chirurgien, vous voyez, qui est en situation quand même, on va dire, très, très naturelle. Vous voyez, il a les bras à peu près à 2 mètres l'un de l'autre, il a les épaules complètement en tension, et aller découper un poulet comme ça pendant 2 heures et demie, vous vous retrouvez avec des épaules complètement ankylosées, et vous ne pouvez même plus rentrer chez vous parce que vous êtes en situation comme ça. Et donc c'est juste de vous faire masser dans les fesses, et ça coûte très cher à l'hôpital, qui doit payer le soin de massage au chirurgien. Donc cette technique-là, c'est formidable, mais globalement, ça nécessite effectivement une expérience énorme pour justement adapter le chirurgien à cette nouvelle pratique. Il dit souvent que celui qui a inventé la scioscopie n'était pas un chirurgien, en tout cas, ce n'était pas un ami du chirurgien, même si on l'a beaucoup développé. Donc la robotique, c'est ça. La robotique, c'est quoi? C'est simplement le fait qu'on va, au lieu d'aller à l'intérieur du patient, si vous voulez, je ne sais pas si on voit mon curseur, donc on ne voit pas tant mieux, eh bien, c'est à l'intérieur une micro-main, un micro-doigt qui va véritablement avoir toutes les libertés de l'espace. Et vous voyez qu'ici, on peut tout à fait comparer la main du chirurgien avec cet instrument qui a exactement les mêmes libertés d'espace et les mêmes degrés de liberté, ce qui n'est pas tout le cas en scioscopie. En scioscopie, vous avez des instruments au-dessus, vous avez 2 ou 3 degrés de liberté en rotation droite, gauche, haut, bas, alors qu'avec la chirurgie robotique, vous avez accès à effectivement une extrême liberté de fonction. Donc, quels sont les principes et les avantages de la chirurgie robotique? Ben, c'est d'être évidemment une chirurgie ce qu'on appelle minimale invasive. Ça veut dire que c'est une chirurgie où on n'ouvre pas, où on travaille à l'intérieur du patient. Et on sait que cette chirurgie minimale invasive a d'énormes avantages. Outre l'aspect esthétique, qui compte incontestablement, on n'imagine pas à quel point le retour à la vie est plus rapide pour les patients, les délais de séjour, qu'on appelle les DMS, sont diminués, le retour à la vie active, la diminution de convalescence, la diminution des antalgiques, mais également des saignements. On sait que la chirurgie minimale invasive, les patients saignent moins, probablement parce qu'il y a une plus grande précision chirurgicale. On dissèque mieux les vaisseaux, on les voit mieux, on les coagule avant de les couper. Et on a donc une chirurgie qui est moins délétère pour le patient. Les suites opératoires sont incontestablement plus simples après chirurgie minimale invasive qu'après une chirurgie ouverte. Par ailleurs, après une chirurgie ouverte, on va traumatiser le muscle. Quand on traverse le muscle, on passe dans cette masse musculaire, on l'écarte après avec des écarteurs, il y a un traumatisme qui se fait, il y a une sécrétion d'enzymes faites sur ces masses musculaires qui ont un certain nombre d'inconvénients pour les malades, au premier d'entre eux les douleurs, et qui fait que là encore, la chirurgie minimale invasive répond à cet objectif de diminuer les douleurs et donc d'améliorer le bien-être du patient en situation post-opératoire. Alors la chirurgie robotique, encore une fois, ce n'est pas un robot qui opère. Beaucoup de patients pensent que c'est le robot tout seul qui avance. Ça c'est dans le futur, peut-être un jour. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. Aujourd'hui, c'est une interface entre le chirurgien et le patient. La qualité de vision est extrême. Elle n'est absolument pas comme cela en chirurgie ouverte, et elle n'est pas comme cela en chirurgie scélioscopique. Pourquoi? Simplement parce qu'en chirurgie scélioscopique, le porteur de l'image, qu'on appelle l'optique, a une seule caméra, alors qu'en chirurgie robotique, elle a 2 caméras. Et vous imaginez qu'en chirurgie scélioscopique, c'est comme si vous cachiez un œil. Si vous cachez un œil, vous allez avoir une vision qui n'est pas une vision tridimensionnelle, vous allez avoir une vision bidimensionnelle. Et la vision bidimensionnelle n'est pas une bonne vision, parce que c'est une vision qui n'est pas naturelle, c'est une vision sur laquelle vous n'avez pas la dimension de l'espace. Ce qui fait qu'en scélioscopie, le cerveau est en permanence en train de travailler pour avoir les rapports de profondeur de champ. Alors qu'en chirurgie robotique, vous avez une double caméra, et donc vous avez une vision tridimensionnelle, exactement celle que vous avez aujourd'hui en regardant ou en regardant des paysages. C'est une vision par ailleurs de très haute définition, je vais vous montrer un film qui va vous le prouver. Il y a une précision parce qu'il y a une magnitude, vous pouvez augmenter la profondeur de champ, vous pouvez augmenter un effet loupe, avoir une augmentation de 3.5, de 5, de 10 la vision que vous avez, donc vous avez une vision magnifiée, extrêmement précise. Enfin, vous avez des contraintes de tremblement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun tremblement en chirurgie robotique parce que la machine est faite de telle manière que, en permanence, il y a une correction des éventuels tremblements. Et là encore, imaginez découper un poulet à 40 cm des épaules comme ça, vous allez voir qu'au bout de 5 minutes, vous allez être zéro. Ce qui n'est pas du tout le cas de la chirurgie robotique. Il y a un confort du chirurgien, donc, si le chirurgien est confortable, ben, il a une plus grande aisance pour aborder le patient, donc toutes ses conséquences, il est assis confortablement, les bras reposés sur une espèce de rampe, et sur lequel il glisse les doigts dans des joysticks, on va le revoir. Et donc, incontestablement, aujourd'hui, la robotique permet de repousser les indications et les limites de la stéthoscopie qui, vous l'avez vu, sont extrêmement limitées en matière de chirurgie rénale, au moins de chirurgie rénale partielle. Quand on retire la totalité d'un rein, il est clair que la chirurgie robotique n'a pas un énorme intérêt. Alors voici ici ce qu'on peut avoir. Vous avez ici le robot sur lequel le chirurgien est installé. Il regarde dans la visière profonde. Il n'y a toujours pas de truc, c'est pas très grave. Et il met ses doigts donc dans des joysticks, vous voyez là-haut, et il regarde dans la caméra. Ici, vous avez encore une fois toutes les dimensions de l'instrument robotique. Vous voyez la finesse de l'instrument. C'est un instrument qui fait aujourd'hui entre 5 et 7 mm. Il est très très petit, très fin. Et il va exactement dans toutes les directions que peut aller une main, en droite, à gauche. Donc on a là encore une très très grande précision. Et tout ça est calibré de telle manière que vous avez effectivement les mains qui répondent aux yeux, qui répondent aux mains. Et donc c'est vraiment le concept de chirurgie intuitive. C'est pour ça que ça s'appelle intuitive chirurgicale. C'est que vous avez vraiment une intuition, c'est que voilà, vous très naturellement, vous arrivez à travers les optiques à atteindre l'objectif. Vous voyez ici là. Alors évidemment, il y a un modèle, un business plan derrière, hein, la société qui commercialise ces robots, c'est une société qui est au Nasdaq. Vous voyez qu'il y en a 2000 aux États-Unis, aujourd'hui le chiffre doit être du reste plus près de 2100. Il y en a 443 en Europe, vous voyez, qui développent la machine dans tous les sens. Et actuellement, il y a 75 robots qui sont installés en France. Et donc vous voyez que vous êtes dans les grandes villes, en plein centre de la France, notamment à Montluçon. Alors les dernières évolutions, et c'est la chance qu'on a ici dans cet hôpital, c'est d'avoir le dernier robot, c'est au lieu d'avoir trois bras, et qu'on introduisait trois instruments à l'intérieur, on a maintenant la dernière version où il y a quatre bras à l'intérieur du patient, il y a encore une miniaturisation des instruments. Cette fois-ci, il y a une double console, ça veut dire que le chirurgien n'est plus seul à opérer avec son aide qui est à côté du patient, mais il y a deux consoles. Deux consoles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, il va y avoir deux chirurgiens qui opèrent en même temps, et ça veut dire surtout pour nous de pouvoir enseigner, et dans les centres académiques, c'est très important, car aujourd'hui, moi je suis maintenant bientôt à la retraite, j'espère bien. Mais il faut bien assurer la pérennité de la chirurgie urologique, et donc on forme des jeunes actuellement, et on a grâce à cette double console la possibilité de former nos jeunes collègues. C'est exactement comme une voiture d'auto-école. Quand j'opère un patient, je dis à mon interne, ben, écoute là, tu vas faire ce temps, je lui donne un bras, je lui donne deux bras, je lui donne trois bras, je continue à surveiller, je donne les quatre bras, et quand je veux arrêter, j'ai une pédale pour tout arrêter et reprendre la main. Pendant l'intervention, on regarde tous les deux exactement ces deux consoles strictement identiques. Je peux le dessiner à la main sur l'écran pour qu'il voit exactement où je veux qu'il passe, je veux que tu passes là et pas là, etc. Donc on a, si vous voulez, un modèle d'enseignement absolument, absolument fabuleux. Et puis il y a une nouveauté extraordinaire, c'est que exactement comme un simulateur de vol, vous savez que les pilotes des grandes compagnies aériennes sont obligés de se former en simulateur, et bien là c'est exactement pareil, on plug à l'extérieur juste une espèce de valise qu'on plug derrière le robot et on est sur un programme d'enseignement de simulation chirurgicale. On a des programmes, il y a plein de programmes. Et aux États-Unis, par exemple, les internes avant de pouvoir commencer à opérer sur les patients doivent avoir un certain nombre de points au robot avant d'y arriver en termes de précision, en termes de rapidité, etc. Donc là encore, il y a un modèle d'enseignement qui est absolument extraordinaire et qui est absolument unique, puisqu'en chirurgie ouverte, bien sûr, on ne peut pas le faire. Enfin, donc, cette nouvelle robotique permet d'avoir des nouveaux instruments qui coagule, qui coupe, qui affine. Et notamment, il y a une chose très intéressante, c'est qu'on va bientôt pouvoir opérer par un seul trocar. On met non plus un trocar, mais un gros trocar de 4 cm sur lequel on va glisser les instruments et on va pouvoir bientôt opérer les patients en faisant une seule incision de 3 cm. Enfin, il y a la fluorescence, très intéressante, notamment en chirurgie partielle du rein, où on injecte de la fluorescéine par voie veineuse. Et la fluorescéine se dépose différemment sur une cellule tumorale, sur une cellule normale, et on voit un plan de dissection que le chirurgien va suivre et qui va lui permettre de retirer la tumeur en toute tranquillité, surtout pour respecter cette fameuse marge dont on sait qu'elle doit être saine pour être optimisée. Donc voici ici l'exemple. Vous voyez, vous avez deux robots, deux consoles qui sont l'une à côté de l'autre, et voilà comment ça se passe. Vous avez les deux chirurgiens qui sont l'un en face de l'autre. La table qui est mise, donc avec toujours une penseuse bien sûr, car il faut introduire les instruments, les modifier et les changer. Et vous voyez ici encore, voilà, typiquement en situation réelle, le robot qui est installé avec des gaines évidemment stériles. Et donc vous voyez que ici l'infirmière est en train en bas de pluguer un instrument qui va être introduit à l'intérieur du patient. Alors les limites, ben c'est le coût, hein, c'est extrêmement cher, hein, puisque c'est globalement plus de 2,5 millions d'euros, donc c'est considérable. L'installation elle-même est difficile, parce que au moment où on va ce qu'on appelle docker le patient, c'est très bien de faire ça permettra de voir un petit peu mieux le film. Merci, je crois que c'est Laure qui est monté là-haut. Le docking, c'est-à-dire qu'on va installer, une fois que le patient est en position, on va approcher le robot, et ce temps-là est un petit peu long au tout départ, et puis bon, les bras peuvent se télescoper de temps en temps. La courbe d'apprentissage peut être un petit peu longue, notamment pour les chirurgiens qui ne s'étaient pas mis à la chirurgie stéréoscopique. Et puis il faut avoir vraiment confiance dans ces aides, parce qu'on va... Il y a toujours un chirurgien, enfin un jeune chirurgien qui est devant le patient, qui introduit les instruments. Et vous savez qu'il y a eu une polémique ces temps-ci. On a vu qu'il y a eu des drames en chirurgie robotique. En fait, c'était simplement que le chirurgien n'a pas bien fait son travail. On doit toujours avoir un œil sur l'instrument qui est introduit, retiré, introduit. Et il y a eu effectivement au moins l'introduction d'un instrument, une plaie notamment d'un gros vaisseau qui a entraîné une hémorragie catastrophique entraînant des décès. Donc ça a été un petit peu la limite et certains urologues ont eu bon ces temps-ci d'en faire part dans la presse. Je ne crois pas que ce soit très intéressant. Alors si vous me dites pourquoi ça, parce que c'est vrai qu'il y a une promotion qui est faite à travers cette chirurgie robotique, voire une publicité, et on a nous, à Française d'Urologie, un certain nombre de plaintes qui sont déposées entre chirurgiens, certains essayant d'utiliser le robot pour, de sa manière, attirer les patients. Donc je crois qu'il faut être très simple, très humble. On a cet instrument-là, c'est pas pour autant que ceux qui ne l'ont pas sont des mauvais chirurgiens, et c'est pas pour autant que tous les patients de France doivent se faire opérer par un chirurgien qui a de la robotique. Mais là, aujourd'hui, dans le cadre d'Arthur, il me semblait intéressant de vous faire part de cette avancée technologique. Et encore une fois, ce n'est pas le robot qui fait le chirurgien. Un mauvais chirurgien reste un mauvais chirurgien, que ce soit en open, en Ocelio ou en robotique. Ce n'est pas le robot qui fait le bon chirurgien. C'est une évidence. Ici, pour vous montrer qu'on est quand même confronté à un certain nombre de situations différentes, voici ici 5 exemples de tumeurs qui font toutes 32 mm. Vous voyez qu'elles sont situées différemment. L'une à l'intérieur, l'autre au pôle supérieur, la deuxième au bord externe, la troisième à l'intérieur, et que bien sûr, toutes ces situations font qu'on est confronté, merci beaucoup, qu'on est confronté à des situations bien différentes. Vous voyez ici, la tumeur, elle est ici, là, elle est là, là, elle est là, là, elle est là, là, elle est là. L'une est antérieure, postérieure, bref, on a des situations qui sont complètement différentes en fonction de cette localisation tumorale, ce qui fait que le choix d'une chirurgie robotique, sénioscopique ou d'une chirurgie open va rentrer en ligne de compte. Par exemple, vous avez l'exemple de cette tumeur qui est complètement centro-huilaire. C'est très difficile aujourd'hui, par autre chose qu'une chirurgie traditionnelle, de l'aborder, parce que même si on a aujourd'hui des échographes à l'intérieur du robot qui peuvent permettre de localiser la tumeur, c'est pas très facile et on préfère, pour ce type de tumeur, faire un abord traditionnel ouvert, où on va aborder le rein, mettre un appareil d'écho, voir où est la tumeur et retirer la tumeur après l'avoir repérée en écho. C'est donc ces différents critères qui sont bien sûr la taille, le nombre de tumeurs. Là aussi, quand on a 3 ou 4 tumeurs à retirer sur un même rein, ben on est plutôt tenté à faire une chirurgie traditionnelle ouverte parce qu'on va peut-être plus vite, on a moins de temps d'ischémie. La localisation et la nature de cette tumeur, quand elle est kystique, fragile, les instruments du robot restent un petit peu pointus et peuvent abîmer la paroi de la tumeur et entraîner ce qu'on appelle une extravasation tumorale, ce qui n'est jamais souhaitable. Concernant la néphrectomie élargie, aujourd'hui, il n'y a clairement aucun bénéfice de la chirurgie robotique. Et on peut le faire en chirurgie sénioscopique traditionnelle, même si beaucoup sont devenus des experts en robots ou ne font plus que du robot. Nous, dans le service, on n'a pas du tout cette philosophie et on continue à enseigner la sénioscopie. C'est pourquoi, à un certain nombre d'entre vous, quand on leur retire le rein en totalité, on leur dit que ça n'a aucun intérêt le robot. C'est la vérité, le robot n'a d'intérêt que pour la chirurgie partielle actuellement. Alors, la limite du robot, c'est quoi? Ben, je vous l'ai dit. C'est une tumeur intrahilaire, encore que pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec les échographes robotiques, on peut être amené à retirer ces tumeurs de la même manière que les tumeurs intraparenchymateuses, les tumeurs postérieures aussi, parce qu'on est obligé de faire un abord complètement postérieur ou de libérer complètement le rein pour le faire basculer à l'intérieur de l'enceinte abdominale et pouvoir retirer la tumeur. Et là aussi, ça prend un petit peu de temps et c'est pas toujours facile. Enfin, les très grosses tumeurs, pour lesquels il n'y a ni chirurgie robotique, ni chirurgie sénioscopique, et où on est encore obligé de faire une chirurgie traditionnelle, où on va ouvrir, de la même manière que les patients qui ont une extension veineuse dans la veine cave ou la veine rénale. Un certain nombre d'entre vous l'ont été. Là, malheureusement, on est encore obligé de faire une chirurgie traditionnelle. Et puis enfin, quand il y a un envahissement ganglionnaire très important du pédicule, où là, on est obligé de faire une chirurgie traditionnelle aussi pour aller contrôler les vaisseaux. Et dans ces situations-là, c'est vrai que la chirurgie dite minimale invasive n'est pas recommandée. Le robot permet aussi d'aborder des tumeurs par de façon presque plus simple que la chirurgie open. Vous voyez ici le cas de ce patient qui a une tumeur de 55 mm qui est située ici au bord inférieur, au pôle inférieur du rein, qu'on revoit ici. Le scanner n'est pas de très bonne qualité. Pourquoi? Parce que le patient est extrêmement obèse. Vous voyez qu'il fait 155 kg pour 1m80, ce qui fait un BMI, qui est l'indice de masse corporelle, à 47,3. Je rappelle qu'au-delà de 40, c'est vraiment une obésité grave. Et vous voyez que ce patient qui a été opéré en chirurgie robotique. En chirurgie ouverte, on aurait dû lui faire une incision qui aurait fait 40 cm avec beaucoup de risques pour la graisse cutanée, beaucoup de difficultés pour le chirurgien qui est vraiment au fond d'un puits, alors qu'en chirurgie robotique, on lui a fait, vous voyez, qu'il se retrouve avec une cicatrice ici par laquelle on extrait la tumeur, 1, 2, 3 et 4 trocars. Ce patient est sorti au troisième jour post-opératoire. Alors en conclusion, c'est vrai que la néphrectomie reste le traitement des tumeurs localisées ou localement avancées, que la chirurgie partielle, et vous savez que c'est le credo qu'on a essayé de développer depuis des années avec beaucoup de satisfaction, je dois dire, s'adresse de plus en plus à des tumeurs de plus en plus grosses et de plus en plus, entre guillemets, centrales. Que la chirurgie robotique, elle permet de refouler, de repousser les indications de la chirurgie minimale invasive pour pouvoir faire cette chirurgie partielle. Et qu'enfin, le futur, et je dois dire que je suis en train de travailler dessus actuellement, et d'envisager d'automatiser un certain nombre de de processus de la chirurgie robotique. On peut imaginer qu'avec un scanner d'une extrême qualité, aujourd'hui, les ingénieurs pourraient peut-être être capables d'automatiser un certain nombre de tâches où le robot automatiquement gérerait, évidemment sous contrôle d'un chirurgien en permanence, mais gérerait l'abord. Et c'est une possibilité, en tout cas, qui n'a jamais été aussi envisageable qu'elle ne l'est maintenant grâce à la chirurgie.